Chapitre 10. Revenue à la santé, quand Clémence put jeter un coup d'œil autour d'elle, elle vit que rien n'était changé dans la maison de sa tante, du moins à la superficie. Au grand contentement de la marquise, Waldemar n'avait pas quitté ses villes et elle disait à son confident Don Sylvestre « Une poule aveugle rencontre quelquefois un grain de blé. Vous m'avez peut-être, pour la première fois de votre vie, donné un bon conseil. » « Je n'ai rien écrit à ma sœur, et il faut que le marquis n'ait pas perdu tout espoir, puisqu'il reste à Séville, qu'il continue à fréquenter ma maison, et qu'il paraît gai et content. Je savais bien que cet enfant finirait par entendre raison. »« Le temps est un grand maître, marquise. Il faut le laisser agir tranquillement, et ne pas courir à la diable comme ces maudits chemins de fer. » Comme par le passé, Constance vivait concentrée en elle-même. Bruno de Vargas conservait son immuable taciturnité et Allegria déployait plus que jamais toute son ardeur de plaire. Dona Eufrasia poursuivait sa carrière, lançant des épigrammes en avalant son chocolat. Enfin, Don Gallo, plus empressé que jamais, continuait à remplir, à la satisfaction de la marquise, ses fonctions de grand maître du loto. À l'exception de Don Gallo, tout le monde avait fait à Clémence un accueil assez froid. Mais le marquis de Waldemar surpassait tout le monde en froideur, et cette conduite fut d'autant plus sensible à la jeune veuve qu'elle gardait encore un doux souvenir du bienveillant intérêt qu'il lui avait témoigné avant son mariage. Veuve à la fleur de l'âge et forcée par les circonstances de revenir dans une maison qu'elle ne se croyait plus le droit d'habiter, Clémence se livrait parfois aux plus tristes réflexions. Sa tante ne l'avait pas précisément mal reçue, mais pas une offre, pas une prière n'était sortie de sa bouche pour l'engager à demeurer avec elle. Joignez à cela l'impression qu'avait produite sur la jeune femme une conversation qu'elle avait entendue, malgré elle, alors qu'elle était encore au lit et qui avait lieu dans une chambre voisine entre Allegria et sa mère. « Vous allez donc, ma mère, disait Allegria, vous charger encore de cette Clémence? Il me semble que serait bien plutôt aux parents de son mari à la prendre chez eux. Est-ce à moi de le leur dire? Entends-tu? Et parle moins haut. S'ils ne prennent pas les devants, vous devez le faire, répliqua Allegria du même ton. As-tu la prétention de me faire la leçon? Clémence est ta cousine, la propre nièce de ton père. Crois-tu qu'il soit dans l'ordre de lui fermer ma maison? D'ailleurs, de quoi te mêles-tu? Ma mère, toute branche parasite, nuit au trône principal. Si, au lieu d'habiter ces villes, vous habitiez Villa Marie, Clémence ne serait jamais revenue chez vous. Mais comme c'est tout le contraire, vous pouvez la compter au nombre de vos rentes perpétuelles à servir. Dans cette triste situation, la pauvre Clémence se demandait souvent s'il n'eût pas mieux valu pour elle de mourir et d'aller rejoindre son mari dans un monde meilleur. Un matin que la pauvre solitaire se livrait à ses amères et tristes réflexions et songeait à retourner à son couvent, on lui remit une lettre qui lui causa une joyeuse surprise. Elle était de son beau-père. En voici le contenu. « Ma chère fille, je n'ai guère l'habitude d'écrire, encore moins celle de faire des phrases. » Mais je n'en ai nul besoin pour te dire, tant en mon nom qu'en celui de ma femme, que nous avons appris ce qui t'est arrivé et ta conduite envers notre malheureux fils. Dieu veuille lui avoir pardonné. Nous voici restés seuls comme un tronc sans branche. Nous désirons donc te voir à nos côtés, comme il convient à la veuve du seul enfant que Dieu nous avait laissé. Viens donc chez toi retrouver tes parents. Tu seras notre consolation et tout ce que nous pourrons faire, nous le ferons pour devenir aussi la tienne. Adieu, ma fille. Je ne t'en dis pas davantage, je te demande seulement de voir en moi un père qui t'aime et qui t'attend. Martine Landron de Guevara. Pendant que Clémence, pleine de joie et de reconnaissance, lisait cette bonne et consolante lettre, voici la conversation qui s'établissait entre la marquise et son amie, Dona Eufrasia. De qui donc est cette lettre que vient de recevoir la petite veuve? Disait la colonelle à peine entrée. Une lettre pour Clémence? Je ne sais qui peut lui écrire. Ce n'est pas étonnant, tu ne sais jamais la moitié de ce qui se passe chez toi. Donia Eufrasia venait de blesser la marquise à son endroit le plus sensible, c'est-à-dire dans ses prétentions à ne rien ignorer de ce qui se faisait dans son intérieur. Aussi, s'écria-t-elle, « Je ne sais rien, prétends-tu, c'est-à-dire au contraire que rien ne m'échappe. Je connais jusqu'à la manière de respirer des habitants de la maison. Ce que je ne puis voir par moi-même, Pépine m'en rend compte. » « Eh bien, ni toi, ni ton satellite, Pépine, que j'ai interrogé, ne savait rien de cette lettre. »« De qui peut-elle bien être ? » fit la marquise vivement intriguée. « Bah, de quelques soupirants. Nous autres veuves, nous avons un charme particulier pour les attirer, et si j'avais voulu écouter tous ceux qui m'ont poursuivi de leur fleurette... »« Quel peut être ce prétendant ? » répéta la marquise tout entière à son idée. Quelque galante avant son mariage, car depuis la mort de son mari, une autre bonne pièce, ma foi, ta nièce n'a pas quitté sa chambre. Serait-ce par hasard de ce... Paco Guzman, cette langue de vipère? Non, non, c'est après Allégria que court celui-là. Quelle extravagance! Du tout, mais sois sans crainte, elle s'amuse de lui, mais elle vise plus haut. Serait-ce de Valdemar? Nous y voilà. Tu voudrais garder ton marquis pour Constance, mais elle n'en veut pas. Pourquoi vouloir nager contre ce courant? Le refus de Constance n'est qu'un caprice qui passera, il est déjà presque passé. Tu crois, repartit en ricanant la colonelle. Eh bien, ma chère, tu n'y vois goutte, et j'ai bien raison de le dire. « Voyons, explique-toi, je n'aime ni les réticences, ni ces mots à double entente. Il faut dire tout ou rien. »« Eh bien, je ne dirai rien. »« C'est bien facile, ma chère, mais je trouve assez singulier que tu aies la prétention d'en savoir plus que moi sur ce qui me concerne. »« Oui, da, tu crois cela, » répliqua Donia Eufrasia, piquée au vif. « Eh bien, écoute, et tu vas tout savoir. Et au fait, j'ai fait réflexion. » Pourquoi me tairais-je, dût-il t'en cuire de la prendre? Tu l'as voulu, tu seras satisfaite. Sache donc que ta Constance n'aime ni le marquis, ni personne autre de ton choix, par l'excellente raison qu'elle est folle de Bruno de Vargas. Hein? Y es-tu maintenant? Il serait difficile de décrire la stupéfaction de la marquise en entendant ces paroles. C'est impossible, exclama-t-elle. Et pourquoi? « Je ne me suis aperçu de rien. »« C'est précisément ce que je te disais. »« À quoi pense cette folle enfant ?»« Mais à ce que pensent les enfants qui deviennent amoureux. »« Mais c'est une folie !»« Raison de plus pour que cela existe. »« Non, non, je n'en crois rien. »« Faut-il te dire que je les ai vus, de mes propres yeux vus, se parler au balcon ?» La marquise leva les mains au ciel, courut prendre un écritoire et commença pour sa sœur une lettre qu'elle interrompait par ces phrases. « Eufrasia, ma fille, au nom de Dieu, pas un mot de cela, jusqu'à ce que ma sœur m'ait tracé ma conduite à venir. Dieu, la mauvaise plume! Insupportable enfant! À quelle heure part le courrier? J'en deviendrai folle! À quelle date sommes-nous? « A-t-on jamais vu personne dans un pareil embarras ?»« Écris, écris !» murmurait la colonelle entre ses dents. « Tu ne saurais rien faire sans consulter ta sœur. Ne me parlez pas de ces femmes qui ne savent seulement pas attacher leurs jupes elles-mêmes. » Au bout de peu de jours, la marquise reçut la réponse à sa missive. La lettre de sa sœur était foudroyante. Après avoir fait les plus vives reproches à la marquise, elle lui prescrivait de poser à sa fille cet ultimatum. Épouser Valdemar ou partir immédiatement pour une campagne isolée, où, seule et à l'abri de nuisibles influences, elle pourrait faire de salutaires réflexions et calmer l'effervescence de ses idées. Bruno Vargas serait envoyé, de son côté, à Mélile, afin de mettre ainsi la mère entre ses deux têtes sans cervelle. La marquise suivit de point en point les instructions de sa sœur. Elle commença par adresser à sa fille les plus vifs reproches, puis elle en vint au conseil, puis aux prières. Tout fut inutile et Constance, demeurant inébranlable, même devant les menaces, sa mère poussée à bout, lui donna l'ordre de se tenir prête à partir. Pour éviter le scandale et couvrir ce voyage d'un prétexte naturel et admissible, la marquise, informée par Clémentia de son intention de se rendre à l'invitation de son beau-père, la pria d'accompagner d'abord Constance en donnant, pour motif de ce voyage, le soin de leur santé. Dans son inépuisable complaisance, la docile enfant céda au désir de sa tante et répondit dans ce sens à son beau-père, en ajoutant combien il lui tardait de se rendre auprès de lui pour cesser d'être orpheline. Constance, toujours impassible, supporta en silence les vexations dont elle était l'objet. Elle ne versa pas une larme en se séparant de Bruno et lui fit parvenir par Allégria, qui, en cette occasion, se montra bonne sœur, une bague en or autour de laquelle elle avait fait graver ce mot « Constantia ».